France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Les ostréiculteurs préparent les fêtes.
C'est le rush de Noël, c'est la grosse période où nous affinons toutes les huîtres. Celle-ci, c'est la fine de clair verte, la belle rouge.
Chaque huître possède un calibre de 5 à 0 qui donne la quantité de chair.
J'aime bien les spéciales, comme ça, elles sont bien en chair et puis on a de quoi manger en fait dans le coquillage.
Je voudrais garder les coquilles d'huîtres, c'est pour faire des cendriers.
Oh, mais bien sûr, Josette, je vous les donne. Mais tiens, tenez, Josette, c'est mon cadeau de Noël.
Ce produit d'exception reste un incontournable pour les fêtes de fin d'année.
Tenez, Josette, prenez la bourriche, ça vous fera une jolie petite valise.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster un plateau de radio qui joue les plateaux de fruits de mer à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Plein phare aujourd'hui sur l'huître, son anatomie, ses terroirs, les méthodes pour l'ouvrir et la déguster, ses recettes festives. On vous dit tout sur le roi des coquillages avec notre expert de la pêche et de la mer, Charles Guériec, bonjour.
Bonjour, j'espère que vous êtes prêts pour le grand huître.
Pas mal. Vous êtes le fondateur de Poiscaille, faut-il le rappeler, le circuit court de la mer, enfin sauvé des eaux, après quelques turbulences, il faut bien le dire, qui ont failli mettre fin à votre activité.
Exactement, on a battu le rappel début septembre et tout le monde s'est mobilisé d'une manière magnifique, avec des témoignages très émouvants des consommateurs, des pêcheurs du caractère indispensable de Poiscaille. Et on a passé cette fameuse barre des 25 000 abonnés. J'ai fait tomber le tablier officiellement comme promis.
Et c'est une très bonne nouvelle parce que vous défendez quand même, hein, la pêche de petits bateaux, les artisans pêcheurs, les écaillés qui travaillent dans le bon sens.
Exactement, on est un peu à contre-courant de la filière. Hein. Vous voyez, on ne propose pas du tout de saumon pour Noël, que du poisson français, que du poisson durable, avec des pêcheurs bien payés à l'autre bout pour qu'ils pêchent moins. Et c'est ce qu'ils nous disent.
On va parler huîtres avec vous, cher Charles, c'est difficile à dire. Vous nous avez apporté un éventail d'huîtres de toutes nos côtes. On va se rendre compte d'ailleurs, un peu cocorico, de la belle diversité de terroirs ou de miroirs. Vous préférez
exactement.
Le mot miroir?
Ah oui, d'accord. Il faut en parler. Il y a des bonnes huîtres partout. La guéguerre des appellations, pour moi, elle n'a pas lieu d'être. Et il y a des bonnes huîtres partout.
On va pas faire de jaloux avec les belles huîtres que vous nous avez apportées. Je suis aussi allé à la rencontre, puisqu'il y a des huîtres partout, d'un ostréiculteur sur l'Étanteau, Romain Dupuis, à la tête des Demoiselles Dupuis, une ferme ostréicole de Bouzigues. C'est un artisan défenseur des huîtres que l'on appelle nés en mer, par opposition aux huîtres triploïdes. Il va tout nous expliquer dans notre reportage. Et pour nous accompagner pendant cette heure, Céline Maguet, Dominique Hutin, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Céline.
Moi, je vais vous parler de la pied de cheval, non pas d'équitation, mais bien d'huître.
Et ouais, une huître tout à fait extraordinaire, voire phénoménale. Dominique ?
Moi, je vais vous parler de vin, je vais vous parler d'huître, je vais vous parler d'eau crue, je vais peut-être même vous parler de cuite.
Ouf.
Avec modération.
Ah oui, Cuite, vous allez voir, il y a une sacrée surprise sur le plateau dont on va déguster. Et vous, comment ça se passe avec l'huître à la maison ? Réagissez dans notre émission en direct sur franceinter.fr ou sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com. Retrouvez toutes nos infos sur l'huître sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de plonger dans le monde des huîtres, une petite dégustation surprise pour stimuler vos palais. Vous avez sous vos micros un liquide, un élixir, je n'en dirai pas plus. Est-ce que vous pouvez au moins me donner une couleur ?
C'est très ambré,
ouais.
Assez limpide, brillant.
Mm-hmm.
Le nez, il y a quand même une sensation vinaigrée.
Oui, vinaigre, j'accepte.
Alors, en revanche, il y a une vraie différence avec la bouche qui est plutôt suave. On a l'impression que c'est un vinaigre qui est basé sur un pinot des Charentes ou un vin de liqueur ou quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
Du miel ?
Non.
Il y a du safran ?
Bravo,
ah oui.
Safran,
ouais.
Boum ! Céline Maguet, un point. Vinaigre, Dominique, un point.
Putain, j'ai zéro.
Et là, on va chercher l'alcool qui devient ce vinaigre ?
On va pas forcément chercher l'alcool, on cherche plutôt des ingrédients qui ont aromatisé un vinaigre dans les aigres doux. Alors, il y a le safran, vous l'avez dit, il y a également un fruit.
Il y a un truc doux.
Il y a un truc doux, absolument, on est dans l'aigre doux. Non. Fiez-vous peut-être à la couleur ?
Sur les agrumes, l'orange, non.
Non.
Moi, j'aurais voté quoi aussi.
Non.
On va faire tous les...
Est-ce que vous
aimez l'huître ?
Ah, c'est bon.
Ah oui,
c'est
très gras, en fait. Ça prend vraiment tout le palais.
Oui.
On le boirait presque comme ça.
Et surtout l'acidité qui revient tout à la fin, qui ponctue tout ça, donc bouche fraîche.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté mielleux, sucré, et l'acidité, c'est super bien balancé.
Eh bien, écoutez...
D'accord.
Vous voulez la solution des jeux, peut-être. En tout cas, il y a déjà de bons indices. Vous êtes des dégustateurs d'un niveau tout à fait correct. Quel est Merci. Ce produit mystère ? La réponse avec une productrice engagée de l'île de beauté.
Je m'appelle Stéphanie Scavino. Nous sommes dans le hameau de Barigioni, donc qui est un des plus hauts hameaux de la vallée de Cisco, dans le Cap Corse. Et donc, je vais vous faire entrer dans notre petite boutique que nous avons appelée Sottavolta, pour dire sous la voûte, puisque nous sommes sous la voûte de notre maison.
Qu'est-ce que c'est joli !
Donc, c'est un ancien moulin, probablement pour plusieurs familles dans le hameau. Donc, c'est un ancien moulin à olives. On a décidé d'en faire une boutique pour mettre en avant notre production, tous les produits transformés que l'on fait ici artisanalement, bien sûr. Autour du safran, puisque nous sommes producteurs de safran, donc on a développé une gamme un peu safranée. Donc voilà. Le vinaigre de fraises et safran, c'est une macération vinaigre de cidre avec nos fraises et notre safran et un peu de sucre. Donc on est entre un sirop léger et un vinaigre, préparation un peu aigre-douce, qui permet de l'utiliser aussi bien en salé qu'en sucré. Pour assaisonner une salade de fruits, c'est super, sur un petit carpaccio de fruits, sur un bon fromage un peu fort, pour déglacer une viande sur un magret de canard, enfin je sais pas, il y a plein de façons de l'utiliser. Et évidemment en salade, parce que ça reste quand même un vinaigre, donc en assaisonnement d'une salade, notamment salade un peu amère, ça vient casser un peu l'acidité ou l'amertume, et du coup ça peut être sympa. Voilà.
Merci.
Avec plaisir, merci à vous pour la visite.
Ah, la fraise, on la retrouve quand on nous donne la solution des jeux, c'est vrai qu'on l'a, on l'a plein nez et pleine bouche. Le vinaigre de fraise, safran, à retrouver chez Stéphanie Scavino dans le village de Cisco. On est dans le Cap Corse, une région que vous connaissez bien, Charles.
Un petit peu, ouais, ça m'arrive de faire des crochets après de passer à Bastia.
Et on est en agriculture biologique, elle produit tout, ses fraises évidemment, son safran, et elle fait ses macérations maison, et ça donne des produits artisanaux de très grande qualité. Charles Guerrier, que pensez-vous de cette tradition française qui consiste à arroser les huîtres d'un mélange, ce fameux mélange vinaigre de vin et échalotes ?
Bah, je trouve ça un peu contre nature de demander à Dominique de mettre un peu de vinaigre ou de citron directement dans son vin. Je trouve que ça casse le goût.
Qu'est-ce qu'il dirait, Dominique ?
Rien, je reste sans voix, rien du tout.
Je pense que c'était un peu aussi pour cacher un peu des goûts sur des huîtres un peu vieilles. Si jamais, moi je le bannis, hein, je dis qu'il faut la manger comme ça, il faut déguster toute sa subtilité. Mais si jamais,
au naturel,
comme ça. Si jamais vous voulez le faire, moi ce que je fais, j'aime bien, je me mets quelques gouttes de citron sur mon pain avant de le beurrer. Et à chaque fois que je mange une huître, je mange un petit bout de pain citronné beurré. On peut faire pareil avec le vinaigre. Je trouve que ça respecte bien et ça permet d'avoir ce petit côté un peu acidulé qu'on cherche à chaque fois avec ces huîtres trop citronnées de mon point de vue. Le bain de citron dans une huître, ça pour moi c'est péché.
Certains préconisent comme ça, notamment des grands chefs, un petit tour de poivre du moulin, ah oui. D'un bon poivre, une épice, quelque chose qui va relever peut-être l'huître sans l'agresser, contrairement au citron.
Mais faut pas gêner, hein, même il y en a qui vont même sur le piment ou d'autres préparations, faut pas hésiter à jouer avec. Mais par contre, de base, c'est quand même bien de la goûter au naturel, telle qu'elle est. On garde l'eau, on garde pas l'eau, là le grand débat est éternel.
On y est, on garde l'eau ou on garde pas l'eau ?
Pour moi, les deux se valent. Si vous préférez quelque chose de très marin, boire une gorgée d'eau de mer et que ça vous fait plaisir, gardez l'eau, pardon. Si vous préférez quelque chose où il y a plus le goût du coquillage, vous jetez l'eau, elle se refera, et puis voilà.
Oui, mais. Pour avoir travaillé avec les professeurs d'ostréiculture, la deuxième eau est plus salée. Donc méfiance. Si vous l'évacuez, attention, la deuxième eau est plus salée.
D'accord, bah vous voyez, il y a déjà des bains. Hein. L'huître est en train de déclencher. Moi, j'ai tendance à jeter la première eau. C'est aussi une façon, quand on n'ouvre pas les huîtres parfaitement, d'évacuer un peu les petits éclats de coquilles.
Et de ne pas en mettre partout quand on les sert. Parce que
et
si...
la bonne nouvelle, c'est que l'eau se reconstitue. C'est-à-dire
l'eau se reconstitue,
vivante,
on peut y aller.
Plus salée, en effet.
Il n'y a pas de problème.
Bon, vous allez voir qu'il va y avoir du débat et de la joute verbale dans cette émission. Derrière la console pour Mitonnet, cette émission, Laurent Thomas et Guillaume Roux, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation. Dominique Hutin a apporté un appareil. À
raclette.
Mais vous êtes trompé d'émission, Dominique, c'est bien ça.
Ok,
bon.
Non.
On va voir. On décoquille l'huître. Juste après, Tout pour moi, le nouveau titre de Clara Luciani, extrait de son nouvel album Mon sang, choisi par Djoubaka sur notre playlist. Bon appétit sur France Inter.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra. Un livre ou un opéra. Mais t'es tout pour moi.
Port de Larosse, Cédric Dubroca vient de rentrer de son parc avec plusieurs tonnes d'huîtres à trier. Le travail ne s'arrête jamais, mais les revenus de cet ostréiculteur ont pris un sacré frein, moins 50% à ce jour. Sur les marchés, les clients passent leur chemin.
Les gens sont très frileux, ils ont été bien échaudés avec cette épidémie de gastro qu'il y a eu pendant les fêtes. Une perte assez conséquente sur le chiffre d'affaires et pour nos entreprises, ça va être compliqué de se relever.
Cédric en veut aux médias qui auraient créé une psychose irrationnelle autour des huîtres d'Arcachon et toujours pas d'indemnité à l'horizon.
Un extrait d'un reportage de France Bleu Gironde diffusé dans la matinale de France Inter le 27 mars dernier. Charles Guerriec, les huîtres n'étaient pas à la fête pour le réveillon 2023, c'est le moins que l'on puisse dire. Leur vente fut catastrophique et la filière ostréicole a beaucoup souffert. Que s'est-il passé en quelques mots?
Alors,
cet emballement.
En effet, y a eu des infections et des cas de gastro suite à consommation des huîtres. Il y avait bien un norovirus qui provoque des dérangements dans les huîtres, mais il y avait aussi en même temps l'épidémie de gastro, donc ça s'est un peu refilé à Noël, donc on a très vite incriminé les huîtres. Et je parlais avec un ostréiculteur d'Arcachon hier, comme celui qu'on vient d'entendre, qui disait que l'origine, le premier cas qui a un peu alerté les autorités sanitaires, c'était plusieurs dizaines de personnes contaminées, mais en fait ça s'est révélé que c'était le dessert du repas qui avait été problématique.
Un dessert à l'huître ?
Un dessert, non, certainement avec une crème qui a dû prendre un petit coup de chaud et puis rester un peu trop de temps sur le buffet. Mais donc on a accusé les huîtres, alors qu'en fait l'origine n'était pas les huîtres. Alors oui, l'année dernière, il y a eu quelques intoxications à cause des débits très forts des rivières. La bonne nouvelle, c'est que cette année, les producteurs se sont organisés et ont renforcé les contrôles. À Arcachon, vous avez beaucoup plus de contrôles, les producteurs l'ont fait eux-mêmes, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Les autorités sanitaires, je pense, vont être un peu plus vigilantes et donc à la moindre alerte sonneront l'alarme ou le rappel. Mais la bonne nouvelle, c'est que les producteurs, là, dès maintenant, on est le 15 décembre, rentrent des huîtres dans des bassins à terre. Mmh. Et donc, ces huîtres sont rentrées maintenant dans des bonnes conditions, donc on peut y aller sans problème. Les huîtres qui sont rentrées maintenant vont être celles qui vont être bientôt conditionnées pour être expédiées. Dernier indice qui peut vous rassurer si jamais vous avez un manque de confiance dans les autorités sanitaires, c'est que les rivières ne sont pas en crue, alors que l'année dernière, elles l'étaient. Donc les débits sont faibles, donc pas de risque de débordement des stations d'épuration, donc pas de risque de répartition de ce norovirus. Donc franchement, il faut y aller, et honnêtement, il faut y aller pour aussi soutenir les producteurs, parce que beaucoup de stocks sur les bras, comme on entendait dans le reportage, et donc il faut manger des huîtres pour soutenir cette production. C'est une protéine française, bannissez le saumon et mangez une deuxième douzaine d'huîtres, vous ferez du bien aux ostréiculteurs français, aux pêcheurs français et à la planète.
Parce que beaucoup ont été mis sur le tapis l'an dernier, l'ostréiculture en France, c'est quand même la première ostréiculture européenne, c'est 4000 exploitations qui font travailler près de 20 000 personnes, c'est donc une filière très importante. Beaucoup ont souffert l'an dernier, on l'a dit, mangeons des huîtres en toute tranquillité, c'est votre cri du cœur aujourd'hui, d'autant que comme vous le dites, on a affaire à un coquillage extrêmement durable, il est local. Il est peu énergivore.
Exactement.
Et puis nutritionnellement, c'est la fête.
C'est parfait. Si vous gardez-en même quelques-unes pour la gueule de bois du lendemain, vous revivrez avec les huîtres. Et surtout, c'est un des rares produits de la mer pour lequel la France est excédentaire. Faut savoir qu'on importe 70% de ce qu'on mange en produits de la mer en France. L'huître, on exporte des huîtres. Donc, faut vraiment y aller. Si on parle de durabilité, de souveraineté alimentaire, de soutien aux producteurs, c'est maintenant. Les prix vont être pas très élevés et donc il faut y aller. Donc, franchement, rendez-vous partout pour en consommer.
L'ostréiculture est présente sur tout le littoral français, la Manche, Dominique Hutin en sait quelque chose, l'Atlantique, la Méditerranée, et là vous nous avez apporté, alors juste un petit inventaire à la Prévert, un très beau panel.
Un tour de France.
Qui représente la diversité de nos huîtres en fait.
C'est ça, alors le plus au nord qu'on soit allé c'est dans le Cotentin, on n'a pas d'ostréiculteurs vers la Seine-Maritime, même s'il y en a. Je crois qu'il n'y a que dans les Hauts-de-France qu'on n'a pas d'huîtres en France, et encore il y a des projets pour en implanter. Mais donc Bretagne Nord vers Paimpol, Bretagne Sud vers la Rethel, la Rade de Brest, Marraine bien sûr, Arcachon, l'étang de Thau, la Camargue. Donc vraiment en fait il y a des bonnes huîtres partout en France, il y a des beaux producteurs partout, des producteurs engagés partout. Donc franchement si vous trouvez des huîtres à côté de chez vous, allez-y.
Eh bien écoutez, on va les goûter ensemble tout au long de cette émission et c'est une super nouvelle. Mais juste avant, j'aimerais quand même qu'on aborde également un autre débat qui agite l'ostréiculture française. On l'a dit, il y avait la question des problèmes sanitaires, mais c'est derrière nous. Ça, on l'a bien compris grâce à vos explications. Et cet autre débat, c'est la triploïde. Ça y est, j'ai lâché ce mot barbare dont 9 consommateurs sur 10 en France ne savent même pas ce qu'il désigne à peu près, pour être clair. Alors qu'est-ce qu'une huître ? Triploïde, qu'est-ce qui la distingue aussi des autres huîtres, celles que vous nous avez apportées? On va tenter d'y voir plus clair avec Romain Dupuis, c'est un ostréiculteur installé à Bouzigues. On est dans une ferme qui s'appelle les Demoiselles Dupuis, les Tantos, une ferme ostréicole assez exemplaire, vous allez le voir, et ses explications sont passionnantes.
Alors ici, vous êtes dans notre masque en chilicole, les Demoiselles Dupuis à Bouzigues, avec d'un côté l'espace production d'huîtres et puis de l'autre côté l'espace dégustation. À 3 km de Sète, c'est le village qui a donné son nom aux huîtres de l'étang de Thau, hein, les huîtres de Bouzigues. C'est un peu la capitale de l'huître en Méditerranée, Bouzigues.
À quand remonte cette tradition ostréicole sur l'étang là ?
Assez tardive finalement, c'est la fin du 19e, début du 20e, donc bien après Marraine-Oléron et Arcachon, hein, où eux, c'est depuis les rois de France. D'ailleurs, c'est un Arcachonnais qui, en 1880, est venu créer les premiers parcs à huîtres ici, sachant qu'au tout début, les premiers parcs à huîtres étaient dans le canal à Sète, devant la gare, sur des espèces de radeaux flottants. Et puis, petit à petit, évidemment, sont arrivés des problèmes de pollution dans les ports. Donc, ils ont fait sortir les parcs à huîtres en les tirant à la voile avec des barques anciennes et ils ont remembré dans les temps de Thau. C'est vraiment pas du tout un port insalubre, hein, Sète, hein, mais ce sont des zones qui sont classées comme telles. Voilà, alors là on voit, là les huîtres, vous voyez, elles s'ouvrent. Il y en a qui commencent à frayer déjà. Hein, voilà. Nous, on fait que des huîtres nées en mer, parce qu'on n'a pas le droit d'appeler nos huîtres naturelles. Ça
veut dire
La mention naturelle voudrait dire que les autres font du pas naturel. Donc l'État nous a interdit cette appellation et nous a autorisé l'appellation huître née en mer. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, 75% des gens font des huîtres hybrides.
Comment vous pourriez définir une huître triploïde ou hybride ?
Ce sont des huîtres qui ont 3 lots de chromosomes. Voilà, tous les êtres vivants qui ont des lots de chromosomes impairs sont stériles. En fait, on croise une huître naturelle, donc diploïde, X et Y, comme nous les humains, avec une huître tétraploïde, qui a 4 lots de chromosomes. Donc en croisant 2 et 4, on obtient 3. Le seul problème, c'est que la tétraploïde n'existe pas dans le milieu naturel, donc il faut la créer. Et c'est là où Ifremer intervient, c'est eux qui l'ont créé.
C'est quoi le but de créer une huître triploïde ou hybride ? C'est une question de productivité en fait.
L'avantage principal, c'est de ne pas avoir des huîtres au lait l'été.
Parce qu'une huître laiteuse, c'est une huître qui se reproduit.
Voilà, c'est une huître qui se reproduit, sa laitance dans son corps, ça donne un goût quand même très iodé, très particulier, tout le monde n'aime pas.
Donc des triploïdes, on peut en élever toute l'année.
C'est la gigasse toute saison. Au début, c'était son nom, la gigasse toute saison, la GTS. Forcément, comme elles ne se reproduisent pas, on va dire qu'elles sont un peu pareilles du 1er janvier au 31 décembre. Ça permet d'avoir un produit stable, tous de la même taille. On sait en France, par exemple, que les huîtres trop petites ou trop grosses ne se vendent pas bien. Il vaut mieux avoir des numéros 2 et des numéros 3, des huîtres moyennes. Donc, toute leur énergie est consacrée à la croissance. Donc, on fait des huîtres en 9-10 mois au lieu d'un an et demi en Méditerranée, et en 2 ans au lieu de 4 ans en Atlantique. Alors imaginez l'Eldorado que ça a représenté sur la côte atlantique. Ça a dérégulé le marché. Nous, on a choisi l'ostréiculture traditionnelle. J'invite les consommateurs à demander aux professionnels chez qui ils achètent leurs coquillages, s'ils font des huîtres naturelles ou pas, enfin des huîtres nées en mer ou pas. Ils ne peuvent pas mentir, ils doivent le dire. Donc c'est aux consommateurs d'exiger l'information. Je vais vous en ouvrir une et on va voir que c'est très charnu. On va voir une autre après, voilà, elles ont leur... Oh, mais c'est une huître plate, ça.
Comment vous ouvrez ça?
Ah ben, c'est un métier. Hein.
Mais l'huître, vous l'ouvrez sur le côté ou par les fesses?
Nous, ici, on l'ouvre sur le côté. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est une huître qui a une vraie typicité. Moi, je la compare un peu à la pleine mer de Normandie. C'est-à-dire que l'huître de Bouzigues, elle n'est pas affinée dans des clairs, dans des bassins d'eau douce. Elle sort brute de décoffrage de l'eau. Donc, quelque part, on boit la tasse quand on mange une Bouzigues. Quand l'étang est salé, ben, on a une huître salée. Quand il a plu et que l'eau est plus douce, ben, on a une huître douce, vous voyez.
Il y a une amertume un peu métallique.
Oui.
J'adore.
Alors, évidemment, les huîtres hybrides n'ont pas le même goût. Les chefs disent parfois qu'elles n'ont pas de goût du tout. En bouche, ça n'a rien à voir. Hein. Mais bon, écoutez, il en faut pour tous les goûts, hein, de toute façon. Hein. Oui.
Le débat fait rage, hein, comme l'a montré Romain Dupuis, ostréiculteur au bord de l'Étanto, entre l'huître née en mer, on a bien compris qu'on n'a pas le droit de l'appeler huître naturelle, c'est donc la diploïde, et l'huître triploïde, cette invention récente de l'Ifremer, qui est en fait une huître née en écloserie et qui est stérile, et qui du coup, grâce entre guillemets, hein, je mets 14 guillemets au grâce, la triploïde, il n'y a plus de mois en air, c'est-à-dire qu'on peut en manger toute l'année, il n'y a plus de laitance. Et c'est la fête.
Oui, c'est la fête, mais pas tout à fait, on va dire, parce que côté durabilité de la production, ça a incité pas mal à de la surproduction. Mm-hmm. C'est-à-dire que vos huîtres, surtout, elles grandissent beaucoup plus vite. Et au bout d'un moment, les ostréiculteurs se retrouvent avec pas assez de place. Donc on envoie les huîtres dans d'autres bassins. Ce qui est un peu dommage, c'est que souvent, dans la production des huîtres d'écloserie, diploïde ou triploïde, on peut faire de la diploïde en écloserie aussi. En fait, des huîtres vont mettre à marraine dans un bassin en plastique, partir, grandir en Bretagne, en Normandie, voire parfois même en Irlande, et revenir à marraine pour la fin.
Ça, avec tout le bilan carbone que cela implique.
Voilà, c'est pas l'idéal. Au final, c'est des productions qui sont souvent assez stéréotypées, assez normées. Donc en goût, moi je préfère, et nous chez Poissy, on fait que des huîtres nées en mer ou naturelles, parce que les goûts sont plus marqués. Là, on a vraiment les miroirs qui s'expriment pour de vrai.
Vous faites une comparaison avec le champagne, finalement. L'huître née en mer, l'huître diploïde, ce serait plutôt des champagnes de vignerons ou des champagnes d'auteur. Quand les huîtres triploïdes, qui proposent un goût standardisé, le même chaque année, seraient plutôt la signature des grandes maisons de champagne, où on retrouve toujours ce goût formaté.
Toujours le même goût, toute l'année, c'est toujours le même remplissage. Une huître, il y a des moments c'est plus rempli, il y a des moments c'est plus maigre, il y a des moments c'est laiteux, il y a des moments c'est gras, et c'est ça la manière naturelle de faire les huîtres. Souvent, en plus, associé quand on parle avec ces producteurs d'huîtres nées en mer, il y a une conscience de l'environnement, une volonté de produire le moins possible pour ne pas impacter tout en maintenant sa production. Donc il y a un vrai engagement sincère qui donne vraiment envie d'être soutenu, et c'est pour ça qu'on fait que ça sur Poiscaille.
Du point de vue du consommateur, comment reconnaître ces huîtres diploïdes? Si on veut faire la distinction, elles sont nées en mer, est-ce qu'il y a une mention sur les emballages?
Alors oui, on peut trouver la mention huître née en mer, ouais. Donc, si vous trouvez ça sur l'étiquette, alors les ostréiculteurs ne le mentionnent pas tout le temps, mais si c'est marqué huître née en mer, vous avez une étiquette là de chez Jean-Noël et Tiffany Yvon où c'est marqué. Vous avez la mention ostréiculteur traditionnel, donc c'est un groupe d'ostréiculteurs qui se sont regroupés, donc ce label OT, ostréiculteurs traditionnels.
Sur tous les bassins de France.
Sur tous les bassins, et mention spéciale à Arcachon, où la distinction se fait avec les huîtres tradition. Donc si vous êtes sur le bassin d'Arcachon, vous trouvez des huîtres tradition, ce sont des huîtres 100% nées, élevées, affinées sur le bassin d'Arcachon. Donc là, vous soutenez, de mon point de vue, les producteurs les plus engagés et les plus vertueux.
Mais il n'y a quand même pas une nomenclature très très claire. Il faut quand même un peu se renseigner. Hein.
Les ostréiculteurs ont poussé à une époque pour avoir la mention triploïde obligatoire quand c'était le cas. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à gagner ce combat législatif. Aujourd'hui, le message, c'est quand même, mangeons des huîtres et ne nous limitons pas si on mange une huître plus standardisé. On soutiendra quand même une production vertueuse, c'est une protéine qui est peu impactante. Donc allons-y.
Il y a la Paris Raclette de Dominique qui est en train de chauffer, mais juste avant, un petit exercice de dégustation. Vous avez ouvert pour nous, et avec toute votre équipe, on peut les citer, hein,
ben
toutes
oui.
les équipes qui vous ont accompagnés.
Greg, Coralie, Max, Mathieu,
merci
on a
à vous.
Toutes les fonctions de Foiscaille qui sont représentées,
et là, on a
de l'achat jusqu'aux finances.
Sur notre plateau, c'est absolument magnifique. Premier exercice de dégustation, avec vos équipes, vous nous avez ouvert, je vois les étiquettes, une Bretagne Sud, et on fait un petit match avec une marraine.
Je vous laisserai commencer par la marraine, plutôt idéalement. Qui normalement est plus douce parce qu'elle vient de chez Ingrid et David Mercier et elle est affinée en clair, donc normalement plus douce. Et après, vous pouvez aller sur la Bretagne.
Croquante.
Ouais, elle a plus goût de coquillage.
Est-ce qu'on a le droit de convoquer le fameux goût de noisette?
Ah, ça nous fait mal celui-là à chaque fois. Ça a goût
et
d'huître.
Pourtant,
est-ce que l'huître a goût de noisette? Est-ce que vous mangez une noisette, vous dites ça a goût d'huître?
Il y a quand même un peu une rondeur d'oléagineux,
oui,
quoi,
oui.
Je suis désolé.
Je peux comprendre que le coquillage et la noisette se rapprochent. Et après, quand on est sur la Bretagne Sud, là, on a une huître qui est normalement plus salé, on sent plus la mer.
Clairement.
Alors qu'on est quand même dans un estuaire, on est proche d'une rivière.
C'est ce qu'elle est bonne.
Mais c'est des huîtres qu'on va dire de pleine mer, alors que la marraine est une huître de clair, parce qu'elle est affinée dans ces fameuses clairs de marraine d'Oléron.
La marraine, elle est un peu plus sucrée, alors que la Bretagne, elle est limite un peu musquée.
Oui.
Elle est plus forte en goût aussi. La marraine, peut-être, passerait plus avec, pour les personnes qui ne sont pas trop habituées
oui, c'est,
à manger des huîtres.
C'est moins fort, aimable. C'est moins fort en iode, c'est peut-être plus accessible, effectivement, ces huîtres de clair, parce que souvent moins salées, moins iodées.
Vous citez à nouveau les deux ostréiculteurs qui se cachent derrière.
Ingrid et David Mercier.
Ça, c'est pour les marraines.
Pour les huîtres de marraine, la ferme marine d'Artourne, dont on a déjà parlé
absolument.
Pas mal de
et
fois.
Ils font aussi des crevettes en saison absolument magnifiques.
Exactement. Et Jean-Noël et Tiphaine Yvon. Donc là, on est dans la Ria d'Etel. Pour moi, ils sont sentinelles slow food avec leurs huîtres quand même, il faut le rappeler. Donc des ostréiculteurs modèles, de mon point de vue, exemplaires. Il faut profiter de leurs huîtres. Il paraît qu'ils vont peut-être partir à la retraite bientôt, alors allons-y.
Il y en a un qui nous arrive de Normandie, le Cotentin, il s'y connaît en matière d'huîtres et de raclette.
On va déguster sur France Inter.
Dominique Hutin, ça va, vous sortez de votre coquille?
Mais oui, je suis venu avec mon petit appareil raclette. D'ailleurs, j'ai relu les conditions, les conventions collectives. Rien ne m'interdit de venir travailler avec mon appareil raclette personnel. Donc, je l'ai fait aujourd'hui. Alors, simplement, c'est vous montrer que lorsqu'on n'aime pas les huîtres, lorsqu'on pense ne pas les aimer, les cuisiner, c'est une manière de les apprécier différemment. On va changer l'aspect, on va changer la couleur, on va changer la consistance, on va changer le goût même avec ce petit après, et on ne va pas pervertir pour autant le caractère iodé de l'huître. Donc moi, je vous ai fait une petite préparation.
Oui, c'est ça, pour être clair, en fait, on a l'huître dans sa coquille,
absolument.
On peut l'assaisonner comme on veut, ça peut être
absolument.
Un sabayon, on peut la faire gratiner en fait à l'appareil à raclette, mais c'est une magnifique idée, non?
Et vous changez selon les saisons, vous changez les ingrédients, en n'oubliant pas un ingrédient principal, qui sont les amis, bien sûr. Donc mon petit appareil, j'ai acheté à Saumur, à l'Emmaüs, à 5 euros, dis donc, tout neuf.
Super. Bravo.
Ouais, très content.
Et accessoirement, vous mangez du fromage fondu ou pas?
Non, pas avec les huîtres. Non,
non, non, mais alors, sans les huîtres.
Ah, sans les huîtres, oui, ça peut arriver, oui, j'utilise comme ça aussi. J'ai gardé le ticket de caisse, je vais le ramener un petit peu. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on boit?
Ah.
Je vous ai mis un petit verre de Chablis. Alors,
ouais.
C'est pas un choix lié au hasard, je vais vous dire pourquoi après. En l'occurrence, c'est Alice et Olivier Demour, 2022, Mont de Milieu, qui est le nom d'un des premiers crus de Chablis. Pardon, je mange en même temps. Alors, dans l'univers du vin, vous le savez, il y a des crus, mais attention à la cuite, évidemment. Dans l'univers des huîtres, on l'a compris, il y a aussi des crus. Mais est-ce qu'on les mange crus ou est-ce qu'on les mange cuites? Il y a beaucoup de questions. Je vous propose d'aborder ce volet-là en nous souvenant qu'il y a 150 millions d'années, la mer était omniprésente, avec un niveau suffisamment élevé pour qu'à l'époque, à Chamonix, on puisse faire du ski, mais nautique. Eh oui. Vous ne saviez pas. Tant il y a des preuves, les géologues ont même retrouvé une addition pour un café à 7,50€ en terrasse. C'est scientifique. Voilà. Si l'huître et le vin nouent des relations depuis le fond des temps, les âges très reculés, c'est parce qu'on a des traces qui sont avérées dans le vignoble. Des bandes d'huîtres fossilisées ont laissé une empreinte suffisamment dense en couches épaisses pour créer une géologie très particulière. Et cette huître, alors son nom, attention, c'est Exogyra virgula. Elle tient son nom de sa forme. En forme de
virgule.
Bravo, c'est bien. Alors attention, elle est minuscule. Elle fait seulement 1 cm de diamètre pour une épaisseur de 2 mm. Autant vous dire que si vous voulez les ouvrir, installez-vous directement aux urgences. Ce sera beaucoup plus simple. Alors avant que l'histoire ne finisse en carnaval du point de suture, je vous propose qu'on continue cette histoire avec votre verre, avec quatre accords autour de quatre terroirs d'huîtres différents, formés à cette époque géologique qui s'appelle le Kiméridien.
Oui.
Donc 150 millions d'années en arrière. Le premier, vous l'avez, c'est l'accord classique avec un vin blanc sec, c'est Chablis. Huîtres cuites, crème et curry, tel que j'ai servi là. Vous avez retrouvé dans mon carnet de dégustation 30 Chablis, tous bio, dans le carnet de vigne. Le deuxième accord possible, c'est les fêtes, il est effervescent. C'est un champagne extra brut, mais pas n'importe où. Le sud de la Champagne, l'Aube, la région qu'on appelle la Côte des Bars.
Et
vous
oui.
trouverez ici un terroir ostréicole, là encore. D'ailleurs, vous trouverez sur notre site les références d'un livre passionnant qui s'appelle « La Côte des Bars en Champagne, histoire des terroirs et des hommes ». Vous allez pouvoir goûter ce champagne. Étienne Sandrin, Beauregard 2020, pétrine naturelle, c'est fin, c'est presque touchant. Voilà. Pour cette recette-là, huîtres crues et le tour de poivre que vous avez convoqué en début d'émission tout
Dominique
à l'heure.
Dominique Cutin valide le poivre.
Ouais. Et dans le carnet de dégustation, vous avez trouvé cette fois 20 champagnes de l'Aube extra brut. Troisième accord, beaucoup plus déluré, le Beaujolais nouveau. On en sort. Alors le Beaujolais nouveau ne meurt pas dans la nuit du 1er, du 3e jeudi de novembre. On peut continuer à le consommer. C'est une petite tradition qui nous vient de Lyon. Vous connaissez Lyon ? C'est une jolie ville.
Un tout petit peu, Lugdunum ?
Voilà. Et ben, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est la zone des Pierres Dorées. On a là trois communes de cette zone du Beaujolais qui abrite un terroir d'huîtres. Et vous allez retrouver là aussi des Beaujolais nouveaux dans mon carnet de dégustation. Alors, pour la consommer, là, c'est très simple. C'est vraiment au naturel. On n'y touche pas.
Mais
avec
c'est plus original, quand même. Huîtres Beaujolais nouveaux.
J'ai jamais goûté. Je me demande, avec le côté un peu fruité du Beaujolais, ce que ça donne.
C'est un piège. C'est terrible. Ne le faites jamais. C'est addictif. C'est formidable. Et c'est comme ça que j'ai été accueilli à Lyon, d'ailleurs. La quatrième, alors attention, là, c'est pour les aventurieux. Avant curieux, tiens, voilà. Faisons exprès. Avec un vin moelleux, en l'occurrence, Sainte-Croix-du-Mont. Et là aussi, on est à côté de Sauternes. Là aussi, vous avez trouvé un banc d'huîtres fossilisées. Alors, plusieurs pistes côté recette, parce qu'il faut vraiment se détendre par rapport à ça. Soit vous faites cuire avec une sauce au vin doux et de la citronnelle pour donner un petit peu de peps, comme ça. Ou alors, vous reprenez une tradition girondine avec une petite saucisse grillée.
Ah, oui. On appelle aussi les crépinettes.
Voilà. Mais essayez-le avec un vin doux. Tel que le Sainte-Croix-du-Mont, c'est absolument formidable. Et là, vous allez retrouver 15, je crois, de tête, Sainte-Croix-du-Mont, dans notre carnet de dégustation. Alors, je ne sais pas si l'affaire est cuite ou si vous m'avez cru, mais la vérité m'oblige quand même à vous dévoiler un rituel de tous les dimanches matins, quand François Régis débarque dans le studio, sur sa lancée, d'une nuit blanche, en boîte de nuit. Et tous les dimanches, voilà ce que nous entendons, enfin, ce que nous subissons, plutôt.
Les huîtres, c'est comme les vies.
C'est pas vrai. Vous êtes très, très 24, Dominique Gutin.
Bah, on apprend que...
1924.
Ouais, mais votre père spirituel, c'est Michel Leb, apparemment.
Oh là là, il a osé. Ah ouais, le vieux piège. Très, très moderne, cette chanson. Bravo.
Oui, c'est mieux quand.
Merci
c'est
beaucoup, classe. Dominique, pour vos merveilleux conseils et vos accords plus ou moins originaux. Et c'est tout à fait intéressant. Et vive la Paris à raclette, surtout quand on n'y fait pas fondre de la raclette, mais bien d'autres choses. Dans un instant, on répond à beaucoup de questions que vous vous posez. Il y a beaucoup de réactions sur notre mail et sur franceinter.fr, Charles Gaillac. On cuisine l'huître chaude avec vous. Il y a aussi un super tartare avec de l'huître. Ça pourrait donner un qui...
Huître. Un qui huître. Et du thon rouge également. Donc, parfait pour faire goûter en mélangeant. Bah, ça permet d'incorporer, puis ça révèle bien le goût du thon rouge. Moi, je trouve que c'est une bonne manière de...
Donc, thon rouge, huître.
Et kiwi.
Et kiwi avec de la coriandre fraîche.
Un petit peu de
et coriandre. Et un petit assaisonnement.
Un petit coup de zeste de citron et un petit peu de cébette. Et c'est parti, ça permet... On va dire de noyer un peu l'huître pour ceux qui trouveraient que c'est un peu compliqué à manger comme ça. C'est une bonne piste pour en faire goûter à
Alors,
tout le monde.
Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est bon ou pas ?
Moi, je suis acquis à la question de l'huître, donc c'est facile pour moi.
Une petite réclamation, les équipes n'ont pas de verre pour boire.
Eh bien, on va le servir, évidemment. Parce qu'il est intéressant de constater qu'il y a des molécules aromatiques en commun. Ça, c'est des scientifiques qui l'ont prouvé entre l'huître et le kiwi. Donc, au-delà de kiwi-huître, l'espèce de résonance phonétique, il y a aussi, évidemment, un cousinage moléculaire qui fait que ça se marie très bien, ces deux produits.
Un petit détail, juste, c'est pas mal de prendre des kiwis un peu verts, un peu fermes,
oui,
qui sont un peu plus la acides.
La consistance aussi.
S'ils sont trop jeunes, c'est vrai que ça peut un peu s'écraser à la préparation, alors que là, on les garde, ils ont une bonne mâche, et ça, c'est quand même bien mieux comme option pour le faire.
On a une petite pause musicale pour profiter de notre tartare kiwi, huître et thon, et puis on s'intéressera aussi avec Céline Maguet dans la deuxième partie de cette émission au phénomène du pied de cheval.
for me. I wish I could do the same, babe. I wish I could do the same someday, sometime. I'm not afraid to say that I do see you in a good light, babe. I wish I could do the same sometime. I wish I could do the same sometime for you. Wish I could do the same.
Ice Comfortable de l'artiste franco-américain Blasé.
On va déguster. Sur France Inter.
L'huître en question, c'est le menu dominical dont on va déguster avec notre invité, notre expert qui vient régulièrement à notre micro, spécialiste de la mer et de la pêche, Charles Guériec, le fondateur de Poiscaille. Le circuit court de la mer, ça réagit beaucoup sur nos réseaux sociaux. Charles, moi je commence par une première question qui est directement liée au titre qu'on vient d'écouter, qui s'appelle, comme je vous le disais, Ice Comfortable. Les huîtres sont-elles confortablement installés sur un lit de glace quand on les déguste pendant le réveillon?
Honnêtement, je le déconseille plutôt parce que, bah, un peu comme avec le vin, ça a tendance à anesthésier les goûts. Donc oui, si vous êtes dans un endroit où il fait 30 degrés, en plein soleil, c'est mieux de les mettre peut-être sur la glace pour les garder fraîches. Mais là,
et puis ça sert à les fixer aussi.
Oui, éventuellement.
À les stabiliser.
Mais à la limite, on prend du gros sel et on pose ça pour stabiliser, ou un peu de paille qu'on trouve parfois dans les bourriches. Enfin, il y a plein de subterfuges.
Ou du goémon.
Ou du goémon, idéalement, ça c'est le top. Mais donc les garder dans un plat, sur la fenêtre, alors si vous n'êtes pas dans une zone qui gèle, voire même dans la cave, là où il fait 6-8 degrés, ou dans le garage, une fois ouverte, c'est mieux pour que les arômes quand même se développent. Donc la glace, vraiment en cas exceptionnel, en plein été ou quand il fait très chaud.
Fermé, ça, c'est très résistant l'huître. Moi je les garde très longtemps. Si vous prenez quelques huîtres dans la bourriche, vous mettez du poids sur la bourriche, elle ne s'ouvre pas. Je les garde 3 semaines.
Très oui, bien. Les ostréiculteurs disent 2. Après, quand vous les achetez, qu'elles ont peut-être passé un coup dans le supermarché, ou elles ont pris un petit coup de chaud, un petit coup de froid, dans les 3-4 jours, c'est quand même l'idéal. Sauf même si vous les achetez en bourriche, regardez bien les dates sur les étiquettes, parce que la date de conditionnement est indiquée, donc la date la plus récente possible.
Et quand on veut prendre de l'avance, qu'on reçoit ses amis, sa famille au moment du réveillon, et qu'on n'a pas envie de se taper l'ouverture des huîtres à la dernière minute, ça peut être combien de temps à l'avance maximum?
On ouvre 3-4 heures avant maximum, je dirais, ou 2 heures idéalement. Et puis après, on garde ça sur le rebord de la fenêtre, ou dans un endroit frais. On peut garder les couvercles aussi, comme ça, ça permet de les empiler les unes sur les autres. Et voilà, ça marche très bien comme ça.
On vient de filmer, de tourner un petit tuto qui est présent sur nos réseaux sociaux, Charles Guériec, et qui explique l'ouverture d'une huître, alors plutôt par le côté. Vous m'avez étonné avec le choix du couteau. Très souvent, on a des couteaux avec une espèce de
garde.
De garde qui permet de ne pas se blesser le pouce.
Tout à fait.
Si jamais on enfonce trop vite et de ne pas finir aux urgences. Vous préconisez un autre couteau.
Ces couteaux-là, ils ont plutôt tendance à vous blesser la main qui tient l'huître, parce qu'en fait, ça vous incite à forcer, et alors qu'il faut mettre le pouce sur la lame. Mm-hmm. Comme ça, il y a toute petite partie de couteau qui est exposée. Et donc, à ce moment-là, vous allez vraiment pas forcer et pas risquer de vous blesser. C'est vraiment ça la clé pour ouvrir une huître. C'est pas forcer, quitte à dire celle-là, j'y arrive pas, je la laisse un peu de côté, un quart d'heure, le temps d'ouvrir les autres, et revenir dessus à la fin. Et donc, surtout pas ces couteaux à garde, parce que c'est la meilleure manière de forcer un peu fort, surtout si vous avez un petit coup de chablis dans le nez.
Mais c'est quand même
c'est pas le bon
un couteau à huître, mais un couteau à huître sans garde.
Sans garde, c'est tous les ostriculteurs ont ces couteaux-là.
Le couteau d'office très très aiguisé, c'est dangereux aussi.
Oui, alors là, c'est vraiment, si vous êtes très habitué, vous pouvez vous lancer dedans, mais franchement, je vous le déconseille. Hein. Prenez un vrai couteau à huître. Si jamais vous avez que ça dans le tiroir à la maison, le couteau avec la garde, bah enveloppez bien votre couteau, mettez le pouce sur la lame, c'est vraiment la clé, mettre le pouce sur la lame le plus près possible pour ne pas se blesser.
Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous demandent une petite précision sur les calibres, parce que là il est vrai que les huîtres sont classées par calibre sur l'étal, et il y a un truc un peu contre-intuitif dans le choix de ces numéros.
Exactement, plus le numéro est élevé, plus l'huître est petite. Donc là, vous voyez, j'ai une huître numéro 4 que je tiens à peine avec les doigts. Je dois serrer mes doigts pour
elle
la tenir.
Elle est assez petite.
Et une huître numéro 0, presque un dinosaure qui a plusieurs années. 0, c'est beaucoup plus gros que 4. Donc en gros, en général, on est entre 5 et double, triple 0, même ça arrive. Mm-hmm. Mais en gros, entre 5 et 1, il faut se dire 4, c'est petite. 3, c'est moyenne, 2, c'est grosse.
Et ben voilà,
aussi simple que ça.
C'est toujours très clair avec Charles Guériec. Céline Maguet, pas mal de réactions hein, sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com.
Alors plein d'idées d'accord aussi, en mettant du vin dedans apparemment, muscadet, pinot de Nice et bulles. Mais aussi des questions. Apparemment, Charles, à chaque tempête, les poches plastiques sur les tables ostréicoles seraient emportées par la mer. Est-ce qu'il y a des solutions qui ont été mises en place?
Ah.
Oui, ça peut plastique. Arriver qu'il y ait les poches dans lesquelles les ostriculteurs ou les élastiques avec lesquels ils accrochent les huîtres tombent au sol. Mais encore une raison de privilégier les ostriculteurs naturels ou traditionnels, c'est qu'ils élèvent beaucoup au sol. Donc c'est la technique ancestrale, on va dire. Avant, il n'y avait pas les tables à huîtres. Et ces élevages au sol consomment beaucoup moins de matériaux, beaucoup moins de plastique que l'élevage sur table. Avec souvent une conscience très forte de la part des agriculteurs qui ramassent leurs déchets, qui nettoient leur parc, etc.
Beaucoup de réactions pour nous demander une différence entre la fine de clair et la spéciale, sachant que fine de clair, on pense souvent clair, l'huître est translucide, elle est plus transparente, elle est moins blanche, si j'ose dire. Rien à voir, hein. La clair, vous l'avez rappelé, c'est un bassin.
Exactement. Alors d'abord, on va distinguer l'huître de clair et les autres huîtres. Donc l'appellation de clair, c'est pour les huîtres qui sont affinées dans les clairs, donc c'est ces bassins creusés à Marraine d'Oléron, dans lesquels, souvent plutôt au mois de janvier, il y a cette fameuse navicule bleue qui arrive, et que c'est une algue qui donne cette couleur verte bleutée aux huîtres. Donc vous n'allez peut-être pas en avoir beaucoup à cette période de l'année, mais il y en a. Et après, il y a une différence entre fine et spéciale. Et là, c'est un taux de remplissage. Donc là, je vous ai mis deux, une fine, une spéciale, toutes les deux, de Marraine, de chez Ingrid et David Mercier.
Ouverte. On va commencer avec la fine de clair.
Voilà. Et donc là, c'est plus une quantité d'huîtres dans la coquille. C'est-à-dire que c'est à peu près c'est la même taille. Mais par contre, dedans, vous allez avoir plus de chair quand vous allez sur la spéciale. Elle sera plus chère également. Et puis après, vous avez enfin les pousses. Donc les huîtres pousses en clair qui, elles, sont extrêmement remplies, souvent plutôt des gros calibres. Pour ceux qui veulent manger vraiment que du coquillage, en avoir pour leur argent, mais ça coûte cher, les pousses sont pour eux, mais elles sont plus rares.
Les pousses en clair.
Voilà, fine, la moins remplie, spéciale, bien charnue, pousse en clair,
vous ne dites pas,
il n'y a presque pas d'eau.
Pour les spéciales, vous ne dites pas grasse?
Non, grasse, c'est une période de l'année, donc avant la reproduction, donc plutôt à partir de mai-juin, où l'huître va être très charnue et elle va commencer à préparer la reproduction. Et après, elle devient même laiteuse au mois de juillet. Alors là, c'est les amateurs les plus avertis.
Là, c'est un peu sport.
C'est un peu sport, l'intérêt de passer sur la glace. La glace permet justement de calmer un peu ça et on choisit plutôt les plus petits calibres à ce moment-là.
Et ensuite, quand on dit grasse, c'est plutôt une impression, une sensation de texture, une sensation tactile, parce que le terme est assez peu approprié en termes nutritionnels.
Tout à fait.
Il y a très peu de calories dans les huîtres, il faut le rappeler, 70 calories au 100 grammes.
Et énormément de minéraux, donc c'est pour ça qu'après quelques abus festifs, elles sont bien adaptées, parce que 1, c'est plein d'eau, 2, c'est plein de minéraux. C'est bien mieux que les boissons artificielles avec des couleurs bizarres pour soigner une gueule de bois.
C'est dit. Attention, Céline Maguet nous fait déguster une huître plate qui a beaucoup de relief.
On va déguster. Sur France Inter.
C'est même une huître hors catégorie. On l'appelle la pied de cheval. La première fois que je l'ai rencontrée, cette espèce de mastodonte, c'était dans les Côtes d'Armor au marché d'Erquy. Elle avait une coquille brune, faite de couches successives, comme autant d'années passées dans l'eau. Et elle tenait difficilement dans ma main. Alors je l'ai achetée, je l'ai inspectée sous tous les angles, et j'ai peiné à l'ouvrir. Un peu comme ce matin, vous m'avez vu. Et puis je l'ai mangée crue. Je venais de goûter pour la première fois la pied de cheval. En fait, vous l'avez dit, François-Régis, l'huître pied de cheval, ce n'est ni plus ni moins qu'une huître plate. Vous savez, ces huîtres endémiques françaises qui ont été peu à peu supplantées par l'huître creuse. Elles sont appelées Austrea edulis, de leur nom scientifique, ou belon, dans le langage populaire, en référence au fleuve breton où on trouve des élevages. Et comme les creuses, les huîtres plates sont définies par leur calibre. Je ne vais pas le répéter, Charles, vous venez de les expliquer. En fait, la pied de cheval, elle est hors calibre. Elle pèse de 160 grammes à 1 kg.
1 kg ?
Voire plus, François-Régis.
Ouais.
On a même trouvé des spécimens de 5 kg dans la baie de Morlaix. Et pour arriver à de tels poids, il faut assez huîtres entre eux, à votre avis ?
10 ans ?
5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans.
Ah, c'est le troisième âge des huîtres, alors. Ok.
Et alors, pourquoi on l'appelle la pied de cheval ? Parce qu'à force d'être ballottée par les courants, elle va perdre la dentelle caractéristique des coquilles. Elle va brunir et prendre l'aspect d'un sabot de cheval. D'où son nom. Bon, il n'y a pas au point de s'y méprendre non plus, mais ça y ressemble. Non,
vous avez cité Céline, Belon, Morlaix, Erquy. Tout ça a l'air d'être une affaire bretonne, alors ?
Je dirais même, François-Régis, que c'est le temps de la grande réconciliation, car c'est plutôt une affaire breto-normande.
Là, je ne bouge pas.
Non, mais
c'est parti.
Il vous fusille de regard, Dominique Quittin,
un couteau à la main.
Le chauvin normand.
Je vais avec un tournevis et un marteau sur les rochers, pas vers Céline, mais sur les rochers de Grandville, récolter les bancs d'huîtres sauvages de ce calibre-là, donc je souscris en fait.
Voilà.
Alors moi, je vais vous planter le décor. Vous êtes au 19e siècle, en baie du Mont-Saint-Michel. Cancale d'un côté, Grandville de l'autre. La morue se fait rare en Terre-Neuve et les pêcheurs cherchent d'autres filons, à défaut de filets. Et ils trouvent les gisements d'huîtres naturelles de la baie qui se mettent à pêcher. La mayonnaise prend et dès 1816, la pêche y est encadrée et tout un folklore s'installe. Des coups de canon sont tirés pour l'ouverture de la pêche quand la caravane se met en route. C'est comme ça qu'on appelle les groupes de bisquines.
Bisquines.
C'est ces bateaux traditionnels à voile que connaît bien, j'imagine, Dominique.
Absolument.
Très lucrative, cette pêche marque l'histoire de la baie. Par exemple, à Grandville, les coquilles d'huîtres pêchées par millions ont servi à remblayer les terrains de la ville. Alors aujourd'hui, on parle encore de caravanes, même si elles se sont un peu rabougries et que des bateaux modernes ont remplacé les bisquines. La pêche a quand même été interdite en 77 à cause de la surpêche, mais aussi des maladies et parasites. Et maintenant, elle a repris depuis 89, mais elle est bien plus encadrée. On est passé de 6 mois de pêche à 1 mois juste avant les fêtes. D'ailleurs, elle vient tout juste de se finir ce jeudi.
Oh, attendez, Céline, alors du coup, vous nous appâtez avec un produit dont la saison vient de se finir.
Rassurez-vous, François-Régis, vous pourrez en cuisiner à Noël, car les huîtres plates sauvages sont gardées en bassin jusqu'aux fêtes. Mais vous pouvez aussi en trouver le reste de l'année, car elles sont pêchées en plongée dans l'estuaire de la Rance, une technique de pêche très respectueuse des fonds marins. Et la pêche aux huîtres y est ouverte d'octobre à avril. Elles sont aussi élevées en pleine mer, comme celles que je vous ai ramenées devant vous, des huîtres pied de cheval de la Perle de Marie-Jo à Cancale. Je vous propose déjà de la goûter crue, pour vous demander votre avis.
Mais carrément, alors, Charles ?
Bah, on est sur pour moi, c'est un autre goût. C'est un goût de coquillage très, très marqué. On sent moins le côté salin iodé. Mais là, il y a une longueur, il y a une profondeur qui est démentielle.
Profondeur.
Ah, ouais.
C'est-à-dire ça correspond à une persistance en bouche absolument incroyable. Désolé de convoquer à nouveau les amers. Mais il y a ce côté...
Les amers fins,
avec qui s'associe à une salinité formidable.
Mais c'est aussi dû au contact avec la coquille, c'est ça qui crée cette amertume. Et en effet, coquillage, ça fait penser un peu à l'amande de mer,
exactement.
Notamment par la mâche et aussi par le goût. Mais en fait, avec une telle taille, ce serait dommage de ne pas la cuisiner. Il faut aussi savoir, très important, que l'huître plate est fragile. Il vaut mieux utiliser des cuissons douces, à l'inverse de l'huître creuse, vous pouvez y aller, elle supporte tout. Donc moi, la recette que je vous ai faite aujourd'hui, je l'ai empruntée à Pénat, un restaurant rennais que j'adore et qui malheureusement va fermer ses portes dans 3 semaines.
Et oui,
profitez-en.
Pénat, Rennes.
Donc j'ai goûté cette recette la semaine dernière, je l'ai un peu adaptée. Alors vous cuisez, vous l'avez devant vous là. Donc à quoi elle ressemble ? C'est la grosse huître pied de cheval avec une petite huile verte.
Extraordinaire.
Extraordinaire.
Un peu de fenouil, un peu de céleri, non ?
C'est vraiment délicieux, du céleri rave.
Céleri rave, céleri branche, huile de persil.
Et huile de persil,
très simple.
Wow,
la vraie technique, c'est la cuisson. En fait, vous allez cuire vapeur cette huître, et de façon à ce qu'elle poche dans sa propre eau saline.
Alors, on l'a ouverte avant.
Pardon ?
On l'a ouverte avant.
Ah, bien sûr, pardon. Vous l'ouvrez avant et vous enlevez le pied. Bien sûr.
Merci Dominique.
Merci d'être précis, Dominique.
Heureusement qu'on a Dominique aujourd'hui.
Non, mais parfois, je les ouvre avec une cocotte minute quand je n'y arrive pas. Je les passe un peu au chaud.
Mais c'est une bonne option.
Sans eau, elle s'ouvre, elle baille, et hop.
C'est vrai que c'est une bonne option.
Quelle horreur. Attendez, vous validez ça ?
Oui, bah pour celles, si jamais, au lieu de vous blesser, il faut mieux peut-être leur mettre un petit coup de chaud, histoire de les choquer un peu, qu'elles se détendent. Et puis là, vous pourrez glisser votre lame de couteau. Au lieu de forcer et de finir aux urgences,
les bons conseils,
c'est une bonne option.
Merci Céline Maguet. Où acheter des huîtres pieds de cheval, si on veut s'en déguster quelques-unes à Noël?
Et où les ouvrir à la cocotte minute.
Oui, c'est ça.
Sur les marchés de la côte bretonne, c'est plutôt facile en ce moment. Sinon, n'hésitez pas à demander à votre poissonnier. Il est toujours possible d'en commander pour les fêtes. Et je vous mets aussi sur le site de France Inter le contact de la Perle de Marie-Jo à Cancale, qui livre en direct, ainsi que ma recette.
Il doit rester assez peu de temps, Charles Guériec, mais quand même un tout petit peu pour évoquer votre passion de l'huître chaude, car oui, c'est un coquillage qui se cuisine. Et là, j'aperçois d'ailleurs notamment carrément des beignets.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on... En fait, la clé pour cuisiner les huîtres, et c'est pas mal pour tous les gens qui n'aiment pas spécialement les huîtres, qui veulent les goûter d'une autre manière, c'est de les décoquiller, idéalement les pocher dans leur eau de cuisson quelques minutes, et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Donc là, je vous ai fait des petits beignets ce matin qu'on vient de réchauffer. Vous pouvez faire avec un petit sabayon, vous pouvez les gratiner au four avec de l'ail, du beurre, du persil. Voilà, il y a vraiment, on peut vraiment jouer avec les huîtres cuites. Et pour tous ceux qui sont un peu rebutés par cette consommation accrue, bah, c'est une excellente option. Je placerai un petit dernier truc sur l'huître plate. Il existe des gravettes également sur le bassin d'Arcachon.
Des
gravettes. Donc l'huître plate s'appelle la gravette dans le bassin d'Arcachon.
Et elle est.
Et il y en a encore qui subsistent.
Mais d'élevage ou sauvage?
Il y a quelques sauvages, il y a très peu d'élevage fait, mais on peut tomber dessus. Il ne faut pas hésiter à y aller.
Congeler des huîtres et les râper à la microplane.
C'est ce que j'ai vu que faisaient certains. Récupérer les chairs des huîtres et pourquoi pas les congeler. Et après, en fait, vous les sortez au dernier moment et vous les râpez sur une préparation de pâtes diverses et variées. Et vous pouvez y aller. Ça évite de gâcher.
Est-ce que Dominique Cutin valide le
je
râpage?
Je pose la question, est-ce qu'il faut les ouvrir avant?
Lui qui ose les mettre sous un appareil à raclette.
C'est mieux de les ouvrir avant, en effet. votre microplane va mal se porter si vous la râpez directement avec
et
la copine.
Et un petit mot, on... La prochaine que vous nous faites déguster, parce qu'on est obligé de se quitter.
On a une dernière huître de Camargue, normalement, que vous n'avez pas mangée, j'espère, mais si, j'ai l'impression que vous l'avez gobée.
Elle est bonne, je l'ai goûtée, elle est
délicieuse. Plus forte en goût, plus iodée. Rendez-vous sur poiscaille.fr pour les réserver pour les fêtes. On fait une petite promotion spéciale pour inciter à la consommation d'huîtres jusqu'à la fin du week-end. Et allez-y.
Merci, les huîtres à commander notamment effectivement sur Poiscaille et un très bon petit bouquin très instructif et documenté qui m'a aidé à préparer cette émission, l'huître, histoire, anatomie, culture, recette chez Menu Fredin. Avis aux Lyonnais et aux Lyonnaises, je suis heureux de vous donner rendez-vous dans la capitale des Gaules, que Bocuse avait rebaptisé la capitale des gueules, qui est aussi ma ville natale, pour une rencontre dédicace autour de mon nouveau livre, Recettes et Récits. Ce sera à la FNAC Bellecour, ce mardi 17 décembre. À 16h. La semaine prochaine, dimanche 22 décembre, vous en serez. Ma chère Céline Maguet, c'est le réveillon dont on va déguster. Elvira, Céline, Alessandra Pierini et moi-même cuisinons tout un menu de fête de l'entrée au dessert et Jérôme Gagnès s'occupe des accords mets-vins. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.